Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. En Nouvelle-Calédonie, près de 57% des votants se seraient prononcés contre l'indépendance. Dernière estimation livrée il y a quelques minutes après dépouillement de 90% des bulletins de vote. Premier commentaire et enseignement de ce référendum historique avec notre envoyé spécial à Nouméa, Mathilde Dehimi. Manifestation massive à Téhéran à la veille de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines. Ce sera un reportage de Siavosh Ghazi de RFI. Les midterms aux États-Unis, J-2, nous nous rendrons dans la région de Dallas, Texas, pour entendre de jeunes latinos soucieux de répondre aux outrances de Donald Trump. Et au sommaire de la face cachée du globe, l'effroyable situation des mineurs réfugiés sur l'île micronésienne de Nauru et le pari politique du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Une certitude, le référendum a mobilisé le caillou et il est fort improbable que le oui l'emporte. Rappelons sans tarder l'intitulé de la question soumise aux plus de 170 000 électeurs concernés par la consultation. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes sur l'île Mathilde depuis quelques jours. Quelles sont les premières données et les premières déclarations politiques à notre disposition ?
Alors, on n'a pas encore tous les résultats, Mathieu. On attend toujours les réserves importantes de voix de Nouméa, mais les résultats partiels donnent une victoire du non à l'indépendance sous les 60%. Et les résultats de la grande ville calédonienne ne vont certainement pas inverser cette tendance. Première leçon ce soir, c'est donc une victoire large des partisans du maintien de la Calédonie comme territoire français, mais dans une mesure moins importante que prévue. Et cette réduction de l'écart entre le oui et le non s'explique par une très forte mobilisation de tous. On annonce 81% de taux de participation définitive. Dans le détail, on sent un territoire toujours très marqué entre les pros et les anti-indépendance. 95% pour le oui dans le fief des Djibaou à Yengen. Plus de 80-90% parfois sur toute la côte est, la plus défavorisée, la plus enclavée en territoire kanak. Les terres du centre, chez les Caldoches, pour le dire assez vite, à l'inverse, ont voté non à l'indépendance à plus de 70%. Donc vous voyez des résultats qui sont toujours très marqués. Et une interrogation pour nous ici, le vote dans la province des îles, il serait en forte baisse d'après les premiers résultats, alors que c'est une réserve de voix indépendantiste forte. Mais les universitaires avec qui nous avons parlé nous disent que les règles pour rétablir les procurations ont été plus strictes, elles ont changé. Un bureau délocalisé a même été installé à Nouméa pour les gens qui ne pouvaient pas voter sur l'île. Et là, dans ce bureau-là délocalisé, les gens sont venus voter, ce qui expliquerait peut-être cette baisse sur les îles. Alors du côté des partis politiques ce soir, les indépendantistes accusent le coup bien sûr, mais ils mettent en avant deux victoires selon eux. D'abord, ils ont beaucoup travaillé sur le vote des jeunes, et c'est vrai que nous les avons vus voter, ces jeunes. Ensuite, ils ont fait le plein de leur voix. Selon eux, il faut à ce stade rappeler juste le découpage du corps électoral de ce référendum. Environ 174 000 votants, 80 000 électeurs se déclarant kanak contre 94 000 relevant du droit commun. Le vote kanak donc n'était pas majoritaire dès le départ et tous n'ont pas voté oui, loin de là. Du côté inverse, dans le camp loyaliste, on se dit satisfait ce soir, mais les résultats, je vous le disais, sont bien moins larges que ce qu'ils projetaient et se pose désormais la question de poursuivre ou non le processus, car un deuxième et un troisième référendum facultatif sont possibles dans les accords de Nouméa, ce serait dans les 4 ans, et les loyalistes, du moins les plus radicaux, souhaitent que l'on s'arrête à ce résultat de ce soir ici à Nouméa.
Merci infiniment, merci à vous Mathilde Dehimi, accompagnée de Laurent Macchietti, nos envoyés spéciaux à Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre Édouard Philippe sera d'ailleurs demain à Nouméa pour, avec l'ensemble des formations politiques de l'île, analyser les résultats de ce référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. La parole présidentielle, elle aussi, fera substrat puisqu'Emmanuel Macron s'apprête à commenter ce temps politique qui rappelle les heures sombres de la colonisation mais aussi celle plus prometteuse de la décolonisation. Allocution du président de la République tout à l'heure à 13h précise. Devoir de mémoire et leçon du passé, d'un passé on ne peut plus sombre. Emmanuel Macron est attendu ce soir à Strasbourg pour, aux côtés de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, ouvrir une semaine d'itinérance mémorielle dans le nord de la France pour y célébrer le centenaire de la Grande Guerre. L'administration de Trump versus le pouvoir iranien. Il y a les joutes oratoires à distance entre puissants et les maux et misères des peuples qui subissent les stratégies géopolitiques et instrumentalisation. Avant-hier, il s'agissait de faire plier l'Iran. Eh bien, l'Iran a convoqué les grandes heures de l'histoire pour électriser la rue. Ce matin, rassemblement en souvenir de la prise de l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979. Un rassemblement retransmis à la télévision nationale. Téhéran, Siavosh Ghazi.
Des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés devant l'ancienne ambassade américaine dans le centre de Téhéran pour crier « Mort à l'Amérique et mort à Israël ». Cette année, cette manifestation prend une nouvelle dimension avec l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran qui vise à arrêter totalement les exportations pétrolières iraniennes et asphyxier ainsi le pays. Mais pour Ahmad Salimi, un Iranien de 67 ans, rien ne change.
J'avais 27 ans quand il y a eu la révolution et nous nous sommes toujours restés fidèles. J'espère que ceux qui sont à l'étranger entendront ce message. Cela fait 40 ans qu'on nous impose des sanctions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela aura des effets positifs pour nous.
Malgré ce discours positif, les sanctions américaines ont durement affecté l'économie iranienne avec une baisse vertigineuse de la valeur de la monnaie du pays ces derniers mois. Les Iraniens craignent surtout une aggravation supplémentaire de la situation si les États-Unis réussissent à arrêter totalement les exportations pétrolières du pays. Téhéran compte sur l'aide des pays européens, de la Russie et de la Chine, pour résister face aux pressions américaines. Si les exportations ont baissé, Washington est loin d'avoir atteint ses objectifs et a été obligé d'accorder des dérogations à 8 pays clients du pétrole iranien.
Siavosh Ghazi de RFI à Téhéran. D'intenses combats depuis le début de la semaine dans le centre de l'Afghanistan entre talibans et combattants fidèles de la minorité persophone des Hazaras, essentiellement de confession chiite. Des dizaines de morts dans la province d'Uruzgan. En Syrie, un convoi d'aide humanitaire des Nations Unies a enfin atteint hier le camp de réfugiés de Rukban près de la frontière jordanienne. Une première depuis le mois de janvier dans ce camp où vivent près de 50 000 personnes. Nicolas Feldman a pu joindre Ali Al-Zatari, coordinateur des aides humanitaires de l'ONU en Syrie.
La mission va durer quelques jours, le temps pour nous de livrer toute l'aide humanitaire. Cela concerne des vivres, des produits hygiéniques et sanitaires. Nous allons aussi mener une campagne de vaccination auprès de 10 000 enfants de moins de 15 ans. C'est un grand soulagement pour les civils. Les habitants du camp vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Ils se trouvent en plein désert et l'hiver est arrivé. Nous avons noté des cas de diarrhée aiguë parce que les gens boivent de l'eau impropre à la consommation. Nous avons aussi des difficultés avec les femmes qui sont enceintes ou d'autres qui doivent allaiter. Aujourd'hui, pour les Nations Unies, il est très important de dire qu'une solution durable doit être trouvée et cela doit passer par un retour volontaire et digne de ces personnes dans leur maison en Syrie.
Depuis hier, d'incessantes frappes aériennes sur la ville portuaire yéménite d'Odaïda, frappes aériennes et combats avec, selon un dernier bilan, 53 morts dans les rangs des Houthis. Les Houthis visés par les forces pro-gouvernementales appuyées par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. À l'avant-veille des élections de mi-mandat aux États-Unis, la prose du président s'épaissit. Donald Trump met en garde contre, je cite, l'avènement du socialisme et contre l'invasion du pays par des criminels, fin de citation, si les démocrates remportaient la Chambre des représentants. C'est au Texas que se déroule l'affrontement probablement le plus observé et le plus cher des sénatoriales. Un quadragénaire et ancien chanteur punk, Beto O'Rourke, défenseur d'un système de santé universel, fait face à l'actuel sénateur Ted Cruz. Parmi les inconnus de ce scrutin, la mobilisation des latinos, traditionnellement peu engagés en politique au Texas. Ils représentent pourtant 39% de la population. Mais les provocations de Donald Trump à leur égard pourraient changer la donne, surtout auprès des plus jeunes d'entre eux. Reportage dans la région de Dallas de Gaëlle Julie.
Dans chacun de ces meetings, Beto O'Rourke, le candidat démocrate, s'adresse à eux en espagnol.
Podemos ganar con los votantes nuevos que tenemos aquí en este estado.
C'est ce qui plaît à Carla, 18 ans à peine. Elle va voter pour la première fois cette année, contrairement à ses parents.
Latinos are scared to vote. Les Latinos ont peur d'aller voter parce qu'ils estiment que leur voix ne compte pas. C'est terrible.
Mais pour Carla, il faut que les Latinos se mobilisent, notamment pour empêcher Donald Trump de les salir jour après jour.
The young Latinos now are experiencing Les jeunes latinos en ont marre de ces insultes de Trump. En tout cas, ça donne l'espoir d'entendre Beto parler en bien de nous.
Favi, elle aussi, apprécie l'intérêt que Beto O'Rourke leur porte. La jeune étudiante de 26 ans en est persuadée, les latinos ont une place à prendre dans le paysage politique.
Il y a tellement de chicanos, de mexicains américains dans ce pays, qu'ensemble, on peut changer les choses. Et les gens oublient, je crois, combien nous sommes dans ce pays.
Avec 5 points de retard sur son rival, l'ultra-conservateur Ted Cruz, Beto O'Rourke ne pourra pas l'emporter au Texas sans le soutien des latinos. Reste à savoir s'il parviendra à les mobiliser. Aux dernières élections de mi-mandat, leur taux de participation avait plafonné à seulement 27%.
Gaëlle Joly avec Benjamin Chauvin au Texas. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Est-ce lié ou non à la perspective de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran ? Les importations chinoises de brut iranien ont accusé depuis le mois de septembre une baisse de l'ordre de 34% par rapport à septembre 2017. Washington devrait donner demain la liste des pays qui auront des dérogations pour continuer temporairement, du moins, à commercer avec l'Iran et l'on ne sait encore si la Chine en fait partie. Elle avait été interrompue il y a 12 ans. La liaison aérienne entre Athènes et Skopje a repris jeudi. C'est un pas de plus vers la normalisation car depuis l'indépendance de l'ancienne République yougoslave qui avait pris le nom de Macédoine, la Grèce soutient que cette appellation ne peut s'appliquer qu'à sa province septentrionale autour de Thessalonique. En juin dernier, un accord entre les deux capitales a été trouvé. Il prévoit la dénomination République de Macédoine du Nord pour ce petit pays des Balkans. Après 5 ans d'intransigeance, Canberra accepte de rapatrier sur son sol tous les mineurs réfugiés et demandeurs d'asile placés dans un camp de l'île de Nauru dans le Pacifique. Depuis la mi-octobre, une 50aine d'enfants malades et leurs familles ont été transférés dans plusieurs villes australiennes. Et d'ici Noël, il n'y aura plus d'enfants immigrés sur Nauru, a promis le Premier ministre australien Scott Morrison. Mais pour autant, ils ne pourront pas rester dans le pays. Les explications de Caroline Lafargue.
Des enfants en dépression qui refusent de s'alimenter ou font des tentatives de suicide, tel est le bilan de santé des migrants mineurs enfermés avec leur famille par Canberra sur l'île de Nauru depuis 2013. Leur faute, avoir tenté de s'introduire clandestinement par bateau sur le territoire australien. Après 5 ans d'incertitude sur leur sort, ils ont perdu tout espoir. Certains souffrent même du syndrome de résignation, une sorte de coma qui peut durer des années. Sur les 500 migrants enfermés actuellement à Nauru, beaucoup ont obtenu leur statut de réfugiés, d'autres attendent le verdict sur leur demande d'asile, d'autres enfin ont vu leur demande rejetée. Mais tous sont forcés de rester sur cette petite île qui ne leur offre aucun avenir. Le gouvernement australien a finalement décidé de rapatrier tous les enfants migrants de Nauru avec leur famille d'ici Noël. Objectif, leur offrir des soins médicaux adaptés. Parmi les raisons de ce revirement politique, il y a une évolution de l'opinion australienne, de plus en plus choquée par la détention des enfants, et surtout l'activisme des défenseurs des migrants qui multiplient et gagnent les recours en justice visant à faire venir les mineurs pour raisons médicales. Mais une fois leur santé rétablie, le gouvernement australien renverra ceux qui n'ont pas leur statut de réfugié dans leur pays d'origine. Quant aux réfugiés, ils iront aux États-Unis ou peut-être en Nouvelle-Zélande, à condition qu'une loi soit spécialement votée pour interdire à ces nouveaux résidents kiwis de rentrer en Australie par la suite.
Dissolution du Parlement arménien jeudi, suivie de l'annonce d'élections législatives anticipées le 9 décembre. C'est le pari du Premier ministre démissionnaire Nikol Pachinian pour avoir sa propre majorité assez rapidement. Écoutez l'économiste Armand Sarian.
Il y a toutes les chances pour qu'il ait une majorité confortable. Il a présenté sa démission à l'issue du sommet de la francophonie qui a eu lieu à Erevan. Et conforté par le résultat de la mairie d'Erevan où le maire a été élu avec près de 87% des voix, l'instrument des réformes, c'est le Parlement. Et pour que sa politique aille vite, il a besoin d'une nouvelle majorité. Donc il est absolument indispensable qu'il y ait cette dissolution pour qu'il ait une majorité à sa main qui puisse voter les réformes qu'il proposera.
Il est arrivé au pouvoir en mai, après des semaines de manifestations anti-gouvernementales. Est-ce que cette vague enthousiaste qui l'a portée est toujours là ?
Pour le moment, oui, mais on sait très bien que la popularité majorité s'érode. Après, l'enthousiasme, il y a les attentes. Les attentes peuvent être déçues parce que on peut trouver que les choses n'arrivent pas assez vite. Et donc, il veut profiter justement encore de cette vague de popularité et pas différer les élections. Plus il les diffère et plus il prendra un risque. Donc oui, la popularité, il l'a encore. Bon, il y a quelques petits mécontentements, mais la base populaire qui l'a portée est toujours là.
Des tombes sur lesquelles étaient déposés des ballons de baudruche et des fleurs aux couleurs du drapeau national, bleu et blanc, ces signes expriment désormais l'opposition au président Ortega. Voilà pourquoi le jour des morts a pris un relief particulier au Nicaragua vendredi, avec des cimetières sous haute surveillance policière. La violence politique dans ce pays a fait, depuis le mois d'avril, 320 morts. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Amel. À dimanche prochain, les très grandes lignes météo de l'après-midi, temps calme sur la majeure partie du pays. La Corse est en alerte orange aux orages et inondations. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Pierrick Monsigny.